Offrez-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Gud morgon Episom, eller vi radio här och en glückliches neues Jahr. Viel Glück und seje prof, endlich des Jahr, gell? Et oui, le temps file et déjà le deuxième mercredi de 2023. Et ce matin, nous avons une chance extraordinaire à Judaïka. J'ai fait une place à un baroudeur de l'extrême, un globetrotteur au look d'Indiana Jones. Si, si, c'est vrai. Il sillonne le monde, la planète, avec un seul objectif dans son cœur et son âme. Mais dans sa musette, il a plein d'autres objectifs, des grands, de grande taille et même des tout petits microscopiques. Si, si. Alors la question que je me pose, pour en faire quoi? Certainement pour zioter un monde différent, à travers un objectif, montrer la véracité de nos différents mondes. Notre sympathique barouteur se nomme František Vardon, il est photographe, philosophe, mais quel beau métier tu as mon ami. Dis-moi, je prononce bien ton nom, František, il est de quelle origine monsieur Vardon?
Tout d'abord, bonjour.
Salut et une bonne heureuse année à toi aussi, monsieur Clic-Clac.
Je suis très content de commencer de l'année comme ça.
Ah oui, moi avec aussi. Toi. Moi aussi, ça me fait plaisir de partager un moment avec toi.
Ça me donne espoir que ça va toute l'année comme ça.
Ben, il n'y a pas de raison.
Et l'année qui se prononce très bien, donc je pense que ça commence super bien, les mardis, de commencer avec toi.
Écoute, je voulais te dire un truc, c'est qu'ici, on est assis sur le rebord du monde. Il y a un aquarium là-bas où il y a Thomas et le rideau s'ouvre et on parle tous les deux. Tu vois, comme si on était sur un tapis volant, tu vois, le grand photographe. Alors dis-moi, ton nom, František Vardon, ça vient d'où? C'est quelle origine?
Écoute, je suis né en République tchèque, à Ostrava.
À Prague, c'est loin de Prague?
C'est loin de Prague, c'est 300 km. Là, j'ai étudié à Prague. C'était plutôt mes études que j'ai fait là-bas. Mais j'ai grandi et mes premières pas photographiques, c'était à Ostrava, dans les paysages du Moravie, du Moravie Sud. Et particulièrement, j'avais de la chance d'habiter à côté des Hukvaldi.
C'est quoi c'est, ça, Hukvaldi?
Hukvaldi, c'est un gros parc qui était les sources des musiques de Leoš Janáček. Je ne sais pas si j'ai Leoš Janáček, c'est un compositeur, un musicien contemporain à l'époque. Et il a composé sa musique en écoutant des oiseaux et de la nature. Et j'étais grandi dans cette ambiance-là. Donc ça m'a pris à la fois de l'image, parce qu'il y a des arbres qui sont très, très, très beaux avec des racines. Alors tu te poses des questions, la vie, racines, la terre et tout ça. Et en même temps, la sensibilité aussi pour la musique et pour les sons. Et
on en reparlera un peu plus tard de la musique, mais dis-moi, est-ce que la nature, c'est quelque chose d'important pour toi? Est-ce que la nature est différente en République tchèque qu'ici, dans ce beau parc des Comtades? Les arbres sont différents? Qu'est-ce qui est différent d'ici? Ferme un peu les yeux et raconte. Raconte-moi ton enfance quand tu gambadais comme ça dans la nature.
Les soucis, c'est pas trop différent. Que je ferme les yeux.
Pour un photographe, c'est important.
Je me promène dans la nature et des fois j'ai l'impression que je suis chez moi.
Ah ouais?
D'abord, on a aussi des vignobles et tout ça qui est la partie du travail de l'homme.
Donc, mais extraordinaire, non? C'est lequel vignoble que vous avez?
C'est plutôt des Riesling.
Du Riesling.
Qu'on aimait bien. Et puis, il y a la nature, donc les arbres et les forêts sont comme dans les Vosges, de temps en temps, je me sens la même chose. Évidemment, cette partie, de temps en temps, il y a des petites parties des forêts qui sont un peu personnelles, que j'aimais bien, qu'on ne trouve pas toujours ici. Mais je ne me retrouve pas déraciné vraiment.
Ouais. Mais tu as un bel accent, je trouve. C'est bien de parler avec un accent. Moi aussi, j'ai un accent alsacien.
Écoute,
comme ça.
Je voudrais la perdre.
Ah non, ne perds surtout jamais.
Et après, tout le monde dit, écoute, garde ton accent.
Garde ton accent, c'est charmant.
Mais
quoi,
tu sais, je voudrais être parfaitement parler et tout ça.
Mais tu le parles parfaitement.
J'ai des soucis avec des féminins, masculins. Et de temps en temps, j'ai dit la lune, les lunes.
Bah oui,
ça,
mais
ça,
la langue française est tellement compliquée. Je comprends pas pourquoi ce soit aussi compliqué, tu vois. Maintenant, j'ai une petite question un peu saugrenue. J'espère que tu vas pas me frapper. La photo, est-ce que ce n'est pas un art mineur par rapport à la peinture, la sculpture, la musique, Francis Seck? Dis-moi un peu.
Ben, la photographie, si tu veux, moi, c'est quelque chose qui est tellement rentré en moi que je sais pas peindre. Enfin, j'ai essayé quand j'étais plus jeune, j'ai essayé quelques peintures et j'étais étonné. Je pense toujours que je ne sais pas peindre, mais j'ai essayé un jour et c'était relativement réussi. Alors je ne sais pas si je reste pour la photographie qui est peut-être plus simple pour moi, ou bien j'aime bien peut-être que c'est laisser une trace que c'était réel, que ça existait. Pour moi, c'était toujours... Enfin, depuis que je suis parti en France, tu sais, quand tu viens dans un pays... Et on te demande, bah, tu es né, tu as quelle école. Et si tu n'as pas de preuve, tu t'es dit, mais est-ce que c'est vrai ce que je raconte? Est-ce que je ne raconte pas mes rêves? Ou est-ce que c'est vrai ce que je veux? La personne qui était en face, je regardais, est-ce qu'elle croit ce que je lui raconte?
Attends, je vais te pincer, tu es bien à côté de moi. Hein,
je suis, voilà. Donc, du coup, si tu veux, la photographie, et c'était encore une preuve que j'ai dit, si tu as une photo que tu as avec ton grand-père, si tu as une photo que tu étais là, tu as vraiment une preuve d'existence. Et celle-là m'a poursuivi toute
C'était quoi ta
vie.
Première photo que tu as fait avec un petit appareil en plastique, j'imagine? C'était quoi ta première
Non, c'était pas en plastique, attention. Hein. J'étais bien...
Non, mais je veux dire, quand t'as 5-6 ans...
J'étais bien attaché au métal, à la travail des... Et en fait, j'ai hérité de mon père. Malheureusement, il est décédé assez tôt, j'avais 19 ans. Et j'ai reçu de ça, comme héritage, son appareil photo Zorki, qui était copie de Leica, qui était très...
Waouh, Leica, c'est pas rien, quand même.
Ah oui, c'est
hein.
pas rien.
Moi, j'ai rêvé d'avoir un Leica dans ma vie, tu vois.
C'était moins précis, peut-être. Ouais, la précision du travail était moins bonne que Leica, mais l'esprit de Leica, c'était dedans.
C'était dedans.
Que j'ai hérité ça.
Et déjà, l'appareil faisait pas de bruit quand tu faisais
non,
une photo.
Non, pas du tout. C'était... Oui, c'était, voilà.
Ça glissait comme ça dans la
bouche.
Oui,
c'était petit bruit qu'on aime bien chez Leica. C'est ça ce que j'ai utilisé après pendant 20 ans, cette Leica, avant qu'il arrive numérique. Et puis, donc, ma première photo, je me souviens, c'était justement un arbre qui était à Hoogwalde avec énormes racines qui ont quelques mètres.
Wow.
C'est des racines qui sont... Et cette photo, de temps en temps, quand je retourne en Tchéco, je vais voir cet arbre-là, il n'est pas bougé, il est toujours la même.
Il n'a pas grandi.
Il n'a pas grandi. Les racines sont toujours là. Et c'était ma première photo des...
Tu es près de la nature, hein, tu aimes la nature.
J'aime bien, c'est une aspiration, c'est quelque chose, une découverte chaque fois, il y a une richesse et j'ai besoin de ça.
Alors, j'ai une autre petite question à te demander. Quand on travaille, comme toi, du métier de photographe, est-ce qu'on s'occupe de la lumière, j'imagine? J'ai lu dans la presse que tu étais le maître de la lumière. Tu es un dieu vivant? Tu as créé le monde.
Tu sais, la lumière, c'est l'essence de tout. Si on n'avait pas la lumière, évidemment, on vivra dans l'obscurité. Et la lumière et les ombres, en fait, c'est ça qui crée l'image. Et c'est ça ce qui est très important, surtout dans la photographie, évidemment, même dans notre vie. Donc, évidemment, cette préoccupation de lumière pour rendre l'objet qui devient intéressant... Il faut qu'il ait un éclairage qui est tout juste bien. Et c'est d'observation qu'il te faut des matins au soir à chaque chose de non vivante ou bien des portraits.
Ouais, ouais.
Et il est très important, la lumière. Si je te photographie dans cette lumière-là, tu n'auras pas les mêmes visages que je t'ai, mais la lumière des Renaissances, bien étudiée. Donc tout ça, je peux te rendre tout à fait différent selon
la lumière. Et ça, on l'apprend dans tes études, où tu l'as appris avec le temps qui passe c'est comme ça que tu as appris de travailler avec la lumière.
À l'école, déjà, on nous a... J'ai fait une très belle école qui était à Brno et puis à Prague. Aujourd'hui, c'est une école très reconnue dans le monde. Et là, on a fait vraiment l'attention que la lumière, c'est là l'essentiel de tout. Donc, déjà à l'école. Mais je pense que c'est la sensibilité. Il faut que tu développes petit à petit cette maîtrise, la lumière, cette connaissance, cette prévision. Si tu veux, quelque part, tu vois un nuage, tu vois la lumière, comment il passe. Et là tu étudies, est-ce que ça vaut attendre ou ça, est-ce que cette lumière viendra comme tu souhaites. Des fois, il faut venir plusieurs fois à cet endroit pour avoir exactement ce que tu veux.
D'accord.
Donc, c'est vraiment la patience aussi et il faut l'observation et connaissance, bien sûr, après.
Ouais, génial. Écoute, maintenant, on va reposer un tout petit peu les oreilles parce qu'on a beaucoup parlé. On va demander à notre ami Thomas derrière son aquarium. D'ailleurs, bonne année, mon cher Thomas. Il ne peut pas parler parce qu'il a trop fêté hier soir. Il a une voix, une toute petite voix, il ne peut rien dire. Thomas, mets-nous voir une petite musiquette qu'il a choisi, notre Mr. Clic-Clac. Attends, je vais te le dire. Murkuava Hamburgskrafter, un truc comme ça. Je l'ai bien prononcé.
Des pays nordiques, ils ont des noms un peu bizarres des fois.
Vas-y, Thomas. Dis-moi, cette musique, elle vient d'où ?
Écoute, c'est Eivor, on appelle aussi Ami des loups, norvégienne.
Ah.
Et que je travaille maintenant, depuis 2016, je fais un livre sur les aurores boréales et que je travaille sur les livres Arctic Way, que je voudrais bien publier peut-être cette année ou l'année prochaine. Mais je m'inspire aussi.
C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que la musique, elle t'inspire ? Est-ce qu'elle te donne le goût de faire de la photo ?
Absolument.
Est-ce que tu fredonnes une chanson quand tu fais clic-clac ?
Absolument. J'ai besoin d'écouter la musique. Si je pouvais marcher avec des casques et écouter la musique en même temps que j'ai fait la photo, elle te met dans une transe.
Oui, c'est
elle
ça.
Elle te met dans dans une ambiance que tu... Que tu rentres comme si t'es après un petit drogue, si tu veux.
Comme, oui,
que
c'est
si
ça.
Tu étais ailleurs.
Comme si tu étais un chef d'orchestre, quoi, un Krempelmeister.
Oui. Et là, avec des paysages, après, tu composes. Donc, si je ne peux pas faire, bien sûr que je ne le ferai pas au moment des prises de vue, mais souvent après que je traite des images, que je choisis des photos, parce que dans chaque mission, je fais 1000 images, pour les choix, je fais toujours la musique. Et ça m'aide
pour sélectionner,
à rentrer vraiment dans les paysages.
Alors je sais que, Franciszek, tu as beaucoup voyagé dans ta vie. Tu as fait plusieurs fois le tour de la planète. Qu'est-ce qu'on apprend quand on voyage ? Partir, à mon avis, c'est apprendre.
Ça devrait. J'ai dit toujours, les gens m'ont posé cette question, j'ai dit, un âne qui part ne revient jamais en cheval.
Excellent.
Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas penser que tu vas voyager, que tu vas devenir déjà sage ou que tu vas devenir un peu plus expérimenté. Voyager, c'est bien, mais il faut ouvrir les yeux et surtout ouvrir les cœurs pour que tu apprennes quelque chose, que tu vois, que tu vois des choses, que tu comprennes. Et c'est là... peut-être en toi, tu vas avoir cette expérience qui forcément ne se présentera pas à l'extérieur d'une parole, mais elle se présentera à chacun qui maîtrise, moi, dans l'image. Je pense que ça va se représenter que tu choisis tes images, tu voudrais une universalité, tu vois, quelque chose qui sera lisible pour tout le monde, qu'un Japonais, un Chinois ou un Américain qui va dire... Je comprends quelque chose dans ces photos. Je sens quelque chose, ça me fait vibrer. Et je pense que cette expérience-là, elle est nécessaire pour un photographe de voyager et voir du monde.
Et en fait, tu parles du monde et tu parles de tes nombreux voyages. Est-ce que c'est facile de photographier un visage d'enfant ou un visage qui exprime quelque chose ? Est-ce que c'est compliqué pour un photographe de te mettre en face des personnes et de leur faire exprimer quelque chose ?
Disons, il faut surtout pas prendre, tu vois, il y a beaucoup de touristes aujourd'hui qui font des photos sans réfléchir, sans, donc ils voient un enfant qui est assis, il fait la photo. C'est pas comme ça qu'il faut faire.
Mais c'est déjà une première approche, peut-être.
Exactement. Tu vois ? Écoute, quand j'étais en Israël, en Palestine, que j'ai photographié pas mal des Palestiniens dans les tentes, comme ils vivent, j'ai même pas sorti l'appareil photo, je la laisse dans les sacoches. Je parle, on passe 2 heures, 3 heures, on boit du thé. Et j'entends qu'il m'a dit, les chefs, il m'a dit, mais vous n'avez pas l'appareil photo.
Ah oui.
Vous ne les sortez pas.
Et c'est là que ça démarre.
Et
quoi.
C'est là où ça démarre, je sors. Son intérêt, il voudrait être immortalisé avec moi, ces moments qu'il y a avec moi. Et c'est là que tu peux faire des belles photos. Donc s'approcher, c'est très difficile des fois, parce que trouver une expression de quelqu'un, il faut déjà avoir s'approcher de lui.
Ouais,
il faut qu'il, quelque manière, il faut qu'il t'aime ou qu'il t'ouvre le cœur et à te donner quelque chose qui est son
de
visage
lui-même.
Pour ouais, des rayonnements. J'ai fait un livre sur les Alsaciens qui s'appelle Les Alsaciens, les portraits, mais c'était des costumes alsaciens.
Oui, je l'ai vu, ce livre.
Il avait, ouais, il avait 200, 230 costumes. Mais ce qui m'intéressait, c'est pas seulement des costumes, et c'est ça dans ce travail qui était intéressant, que je souhaitais que les gens, quand ils ont mis les costumes, ils se transformaient complètement.
Ouais.
C'était des vendeuses ou des juristes.
Oui, t'as pris tout le monde.
Et ils complètement échangeaient. Et là, j'ai attendu aussi, il fallait attendre que son visage s'exprime complètement dans ce nouveau habit qu'il portait de ses parents, des grands-pères et grand-mères. Et c'est là où j'ai attendu ce moment qui dégage quelque chose de chacun. Et c'est pas facile.
Oui, oui, on sent que tu es animé par le Franciszek, par un grand amour de l'être humain. Tu aimes les gens, tu aimes l'autre, ça se sent de la manière dont tu t'exprimes. Et quand je vois tes photos, ces photos noires et blancs que tu as fait avec les mains d'enfant dans une lumière un peu style charbon, comme ça, une lumière magnifique avec. C'est des images très très connues hein, qu'on voit dans pas mal de magazines.
Oui, c'était mon premier travail. À l'école, une fois que j'ai terminé l'école photographique, les professeurs m'ont dit, Franciszek, tu es un photographe noir et blanc. Tu devrais rester en noir et blanc. Ça m'a toujours, je regrettais un peu parce que bon,
dans la vie. Moi, je trouve que c'est les plus belles images.
C'est les plus belles images.
Moi, j'adore le noir et blanc.
Voilà, les couleurs ne prennent aucune importance et tu cherches pas l'image telle quelle, tu cherches l'histoire qui est proposée devant toi. Et ça, en noir et blanc, c'est que de noir et blanc qui peut exprimer. Tu enlèves tout ce qui est les couleurs, ils ont son pouvoir. Quand il a une tache jaune ou rouge dans l'image, évidemment, ils vont t'enlever toute cette beauté que tu cherches.
Maintenant, donc, avec Photoshop, c'est relativement facile hein, de faire un ciel, un coucher de soleil ou un truc comme ça. Je sais pas, les gens qui ont des iPhones et qui travaillent ça sur les ordinateurs, ils peuvent faire des miracles hein, avec la lumière.
Oui. Tu peux aussi faire des couleurs aujourd'hui en noir et blanc, mais c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
À l'époque, avec cette Leica qui était très discret et qui était que de noir et blanc, tu n'avais pas de choix. Il y avait des photographes qui disaient bah, je prends deux caméras, un caméra en couleur, un caméra noir et blanc. Mais j'ai dit, mais c'est impossible. C'est deux choses différentes. Le noir et blanc et couleur. Noir et blanc, on rentre dans l'histoire.
Ouais,
on en cherche la lumière.
Alors dis-moi, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que les gens sont tous photogéniques? Tout le monde, tu peux photographier tout le monde. Il y a des gens qui sont plus faciles à photographier. Quand tu les photographies, et ils glissent carrément dans ton appareil et tu sens qu'ils pétillent de bonheur.
Ben, ça dépend pour quelle utilisation tu voudrais la photo. Si c'est pour la publicité, évidemment, des acteurs sont beaucoup plus simples à utiliser, des acteurs qui ont un beau visage, régulière et tout ça. Évidemment, ça, c'est autre chose. Mais chaque visage représente quelque chose.
Une âme.
Une âme. Et moi, je suis dans cette direction-là, si je vais. Donc, chaque être humain, chaque animal, même, a son visage, a son caractère. Donc, je ne vois pas la différence. Si on parle de la publicité, évidemment, c'est différent. Là, il nous faut certains critères que le monde a installés ou de la société qui...
Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Écoute, on va demander à notre ami Thomas, dans son aquarium, là derrière, de nous mettre un peu de musique, une musique que tu as demandée. C'est Lauren McNeil.
Oh, celle-là, j'adore.
Alors, vas-y Thomas, mets-nous la musique.
Elle vient du Manitoba.
Ah oui, Manitoba. Alors là, Franciszek, on est sur un tapis volant, on vole au-dessus du studio. Cette musique, elle nous entraîne. Hein. Tu la connais, elle vient d'où? Elle est norvégienne, cette...
Elle est du Manitoba, Lorena.
Canadienne.
Manitoba, oui. Et puis, en fait, j'ai des Australiennes, j'ai des, ouais, des Norvégiennes, j'ai des...
C'est une jolie rousse, hein, elle est jolie rousse, cette femme.
Des Samis, hein. des tribus ouais, ouais. Samis. J'aime bien la musique des mondes.
Du monde, en fait, ouais. Ouais, moi aussi. Et alors, parle-moi un petit peu, là, on a une dame qui chante, j'ai l'impression qu'elle était aussi écossaise, elle pouvait venir de tous les pays du monde. Raconte-moi un petit peu comment tu étais en Norvège ou en Islande quand tu as filmé ces aurores boréales. C'est facile de mettre ça sur dans un appareil photo? Comment tu as fait?
Écoute, en 2014, tu sais, il y a des cycles de soleil qui crachent plus des poussières magnétiques. Et c'était en 2014 qui était très, très fort. Chaque 11 années, il y a plus des éruptions solaires. Donc, ça se projette que tu as beaucoup plus des aurores boréales. Et donc, 2014 aussi, il avait l'appareil photo Canon qui a sorti avec très haute sensibilité.
Ah ouais.
C'était des capteurs autrefois utilisés pour...
C'était déjà du numérique. Hein,
numérique, voilà, on est déjà numérique. C'était ça aussi, les films ne nous ont pas permis
de faire cela
de
autrefois,
faire des,
ouais,
des aurores boréales.
Ouais.
Donc on était à 3200 ISO ou 5000 ISO. Donc ces Canon a sorti. Donc en même temps, il y avait des éruptions du soleil très fortes. En même temps, il y avait Canon qui avait sorti cette capteur. Donc j'ai profité les deux, en fait. Et je suis parti en Islande, à l'époque avec Stéphane Vetter, qui était médecin, mais qui était très spécialisé, qui m'a un peu guidé aussi, parce que dans la photographie, il y a des spécialistes qui connaissent bien. Donc, et là, je suis parti, et après, pendant 4 ans, j'ai poursuivi ces aurores boréales, d'abord en Islande. Islande, c'est très bien placé parce que c'est dans une zone où les aurores boréales, tu sais, elles dansent autour du nord et au sud. Et puis, donc, ça m'a pris 4 ans que j'ai publié un livre.
4 ans pour faire le livre sur l'Islande.
Voilà.
Ouais, je les ai vus un peu sur Facebook également.
Voilà. Ce livre était très connu et très bien parce que c'était pour la première fois qu'on voyait des aurores boréales dans toute la force. Il y avait des orgues de toutes les couleurs, des oranges, des bleus, des jaunes. Ouais. C'était très bien. Et Islande, avec ses glaciers,
Tu aimes le froid glacial.
J'adore le froid.
Ça se voit, ça conserve, hein. Tu t'es bien conservé.
Je pense que mes ancêtres viennent du nord. C'est peut-être ça, que des vikings
aussi.
Quelque part du nord. Ouais. Donc je reviens en fait quelque part dans la... Et donc je commence avec cette livre des aurores boréales et ensuite j'ai fait aussi pas mal de vidéos.
Dis-moi, je sais que tu es quelqu'un qui a engrangé beaucoup de bouquins. Tu en as fait combien dans ta vie, des livres? Une trentaine, une vingtaine?
Écoute, 34 livres.
34 livres? Waouh!
Donc, je suis 35 en France. Donc, en fait, chaque année, j'ai fait un livre, à peu près.
Mais c'est pas vrai. Mais tu connais les éditeurs du monde entier. Comment tu fais?
Écoute, non, c'est quelques-uns. Quelques-uns, mais surtout avec Édition des Signes, que je travaille depuis longtemps.
Notre cher ami Christian Riel.
On se connaît depuis 35 ans.
Ah, ouais.
C'est avec lui que j'ai commencé cette fameuse Bible des Mille, des voyages dans 54 pays du monde.
Oh, wow.
J'ai fait plus que 300 000 photos pour illustrer. On a fait 18 volumes.
Wow.
Le livre était publié en 5 langues, parti dans le monde entier. Donc ça a commencé comme ça.
Et là, tu as publié un livre sur ton jardin secret, là où tu habites, dans le Korsberg.
Korsberg,
c'est comme ça qu'on le prononce en alsacien.
Absolument. Écoute, j'ai vu à Ittenheim,
c'est beau là-bas.
Korsberg déjà.
Ah ouais.
Et puis, j'aime bien me balader matin quand je rentre du voyage. Pour moi, même si je me balade derrière ma maison, c'est toujours un voyage.
C'est ton jardin, quoi.
C'est mon jardin. Ah, ouais. Et je regarde aussi des petites bestioles qui sont petites.
La vie, quoi. Tu regardes la vie, tout simplement.
Et tout des arbres qui sont gelés dans l'année, tu vois, la progression de la nature qui monte. Et pour moi, c'est vraiment aussi excitant. Et je l'ai dit chaque fois, je suis aussi excité que je suis à Grand Canyon ou à
que
Zion
si tu
Canyon.
Allais,
ou je ne sais pas. C'est exactement la même chose. C'est de lumière. Comme, par exemple, hier ou avant-hier, on avait des ciels magnifiques.
C'est magnifique.
C'était super beau. Et je suis excité à voir ça tous les matins.
Ouais, ça sent
aussi la même chose.
Écoute, en fait, je sais aussi que tu publies tous les jours une photo sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui te fait vraiment connaître également en Alsace ou ailleurs dans le monde entier.
Écoute, les livres que j'ai publiés, je suis très content. C'est un objet qui reste, un objet qui a... Mais elle ne m'a pas permis les livres. J'avais peu de réponses de l'autre côté des spectateurs. Parce que bon, les gens achetaient des livres, gardaient à la maison. Quand le Facebook, les réseaux sociaux qui sont arrivés, moi je trouve ça génial.
C'est génial.
Tu poses la photo et dans le monde entier,
tout le monde te voit.
Tout le monde te voit dans quelques secondes. Ouais. Mais c'est une invention extraordinaire.
C'est génial, je suis d'accord avec toi. Ouais. Alors on va écouter pour finir une petite musiquette que tu aimes bien aussi. Tu m'as demandé cette musiquette, c'est Evorotius Kordischnutzli. On va la mettre, mon cher Thomas, la musique numéro 4. Comme ça,
la norvégienne, oui.
Et dis-moi, Frantisek, ça ressemble à du japonais, ça, non?
Un petit peu, oui, c'est voix un peu.
C'est pas de l'alsacien, c'est du japonais. Alors dis-moi, notre émission se conclut tout doucement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 23, là? Qu'est-ce que tu as envie de... C'est quoi tes projets pour 2023?
Tu sais ce que je souhaite à tout le monde, parce que moi, je les souhaite à travers des mois, bien sûr. Je souhaite que les gens me disent souvent, les jours sont les mêmes. Et on s'ennuie toujours le même, on se lève matin, on va travailler, on rentre. Je souhaite qu'il y ait chaque jour différent pour chacun, que chaque jour qui cherche, que chacun qui cherche à nouveauté, qui voyage, qui
la
cherche
curiosité.
Aussi dans la journée, qui cherche et qui s'ennuie pas, qui dise la vie est belle parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. Et je souhaiterais cela, que cette bonheur que chacun qui prend et qui voit la richesse que la vie
du monde
peut nous donner.
Ouais. Bah, merci beaucoup. On va conclure sur ces belles paroles d'espoir. Écoute, je te remercie en tout cas d'avoir partagé ce micro avec moi, Radio JTK. J'étais très heureux de te rencontrer parce que pour moi, tu es un dieu vivant. Tu fais la lumière dans les appareils photo, tout ça. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Et la semaine prochaine, on a une autre invitée. Mais ça, c'est un petit secret. Allez, mets-nous la musique du générique de fin, mon cher Thomas. Et merci beaucoup, Frantisek Svardon.
Merci, André, aussi. C'était très sympathique.
Merci, charmant.
Commencer l'année comme ça.
C'est super sympa.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Rocher peut-être.